Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Elite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Elite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, on vous livre un épisode vous expliquant nos retours sur le Black Friday 2022. On commence en entrée avec des données à l'échelle mondiale pour par la suite finir avec un panel d'experts de chez Pure Commerce. Bonne écoute! C'était donc le Black Friday, le moment le plus important de l'année pour les e-commerce afin de faire exploser les ventes en volume. Et avant de passer à un panel de spécialistes de chez Pure Commerce, j'ai décidé de vous faire un petit tour d'horizon grâce à différentes sources telles que l'étude de Salesforce et de Adobe que je vous laisse dans les notes de l'émission. Alors, réussite ou monumental échec ce Black Friday? Soyons honnêtes, nous avions plusieurs signaux comme quoi le Black Friday serait plus difficile cette année. Des analystes en parlaient, Meta en parlait, Amazon même en parlait comme quoi. Effectivement, ça allait être plus difficile. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Est-ce que le Black Friday a tenu ses promesses, notamment aux États-Unis? Eh bien, voici les chiffres de nos deux sources. La journée du Black Friday aurait rapporté 9,12 milliards de revenus selon Adobe, plus de 2,3% de croissance d'une année à l'autre. Au niveau mondial, nous sommes à 65,6 milliards selon Salesforce avec une progression de 3%. Le week-end qui a suivi, c'était 9,56 milliards de dollars et le Cyber Monday, 11,3 milliards en revenus. On vous le dit tout de suite, le Black Friday de cette année a été un record. Mais la croissance, comme attendu, n'a pas du tout été aussi forte que précédemment. Adobe voyait une progression de plus de 30% en 2020, puis de 8,6% en 2021. Nous sommes encore en baisse. Et c'est normal, si le COVID s'est effacé, il a laissé place à une autre entité, l'inflation. C'est pour cette même raison, selon moi, que le BNPL, le Buy Now, Pay Later, dont on vous a déjà parlé dans le podcast, a tout simplement explosé pendant le mois de novembre. Les revenus issus de cette fonctionnalité ont augmenté de 81% pendant le mois de novembre, nous explique Insider. Quelques autres informations qu'il est intéressant de partager. Les grands gagnants du Black Friday et Cyber Monday sont l'électronique et les jouets. Le desktop a surpassé le mobile en termes de taux de conversion, car en moyenne, le grand écran était à 6,2% de conversion quand le mobile affichait un timide de 3,4%. Mais ça ne veut pas dire que le mobile s'est vu voler des dépenses, loin de là. Sur nos e-commerce, en publicité Facebook notamment, l'écrasante majorité des dépenses et la croissance qui a suivi pendant le week-end s'en est allée au petit écran. D'ailleurs, les experts sont assez unanime sur le fait que le mobile a été une source de croissance pour le Black Friday. J'espère que les e-commerçants ont fait le nécessaire pour optimiser leur affichage mobile parce que ça a toujours été le point faible de la période. Bref, on continue d'observer une croissance, mais une croissance plus faible due à des raisons évidentes. Il serait intéressant de suivre de près si la demande continue de suivre pour le mois de décembre. Affaire à suivre. Cette année, beaucoup d'entreprises appréhendaient le Black Friday comparativement aux années précédentes, avec la crise économique à nos portes ainsi que l'inflation en hausse. Beaucoup avaient peur à ce que les consommateurs soient plus frileux dans leurs décisions d'achat. Au final, comment tout ça s'est traduit? Est-ce que le BFCM de 2022 a été meilleur que 2021? On en discute avec Stéphanie Tifo, directrice de la stratégie chez Pure Commerce, ainsi que Adeline Navarro, responsable du département Google, dans notre groupe. Bonne écoute! Donc, on est de retour pour le podcast Commerce Elite, le format discussion. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie Tifo, directrice de la stratégie dans le groupe J7, autant chez Pure Commerce que J7 Media, et Adeline Navarro, qui s'occupe de tout le développement Google Ads dans notre organisation. Mesdames, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va bien et toi?
Ça va très bien, merci.
Yes, une grosse semaine après le Black Friday. Hein? C'est toujours assez chargé. On fait les analyses, les débriefs, les rencontres qu'on fait avec nos clients. Et l'objectif de la discussion aujourd'hui, mesdames, c'est de faire un peu un retour sur ce BFCM 2022, voir quels ont été les bons, les moins bons coups, ce qu'on va refaire l'année prochaine et peut-être les choses qu'on ne refera pas. On va analyser spécifiquement le volet Facebook et le volet Google et la semaine prochaine, on fera la même chose avec un de nos collègues au département emailing. Stéphanie, je me tourne vers toi. Bon, tu es en charge de stratégie, tu travailles beaucoup au niveau Facebook, tu essaies de bâtir des bons tunnels de vente également avec nos équipes. Ton BFCM en 2022, si tu avais à le résumer, comment ça s'est déroulé?
Ça s'est très, très bien déroulé. On a commencé la planification du Black Friday, Cyber Monday, ça fait déjà quand même quelques mois, hein, dès la fin août. Et enfin, on a pu avoir les résultats. On est vraiment content de voir qu'on a plus de 90 % de nos comptes qui ont vraiment réussi leur Black Friday ou surpassé là, leurs résultats. Donc, très, très beau résultat là, que nous avons eu.
Adeline, toi de ton côté, Google Ads, bon, est-ce que ça a été peut-être à la hauteur de tes attentes, un petit peu comme 2021? Parce que par la suite, on va essayer d'analyser en détail les bons, les moins bons coups, mais je serais curieux d'avoir peut-être ton point de vue global sur tout ce qui s'est déroulé au niveau Google Ads.
Tout s'est très, très bien passé aussi. On a des taux de réussite qui sont très similaires à ceux de l'équipe Facebook, ce qui n'est pas étonnant dans le sens où on a tous travaillé main dans la main pour arriver à ces taux de résultats. C'était aussi le premier Black Friday de Pure Commerce et ça a vraiment été une bonne réussite avec de très bons learnings dont on va pouvoir discuter par la suite.
Bon, ben parlons-en un petit peu de ces learnings-là. Donc, je me tourne peut-être vers toi, Stéphanie, au départ. Bon, qu'est-ce qu'on avait fait peut-être en 2021 qui avait bien fonctionné, qu'on voulait retester cette année, les choses qui avaient peut-être moins bien fonctionné? Fais-nous un portrait un petit peu de ce qu'on a mis en place de notre côté cette année et voir quels sont les apprentissages qu'on en fait pour l'année prochaine.
Oui, c'est certain que le Black Friday, Cyber Monday, au niveau Facebook, là, c'est vraiment un gros événement qui va débuter très tôt avec notre réchauffement d'audience. Une des principales choses qu'on a fait différemment, okay, de 2021 serait de commencer un réchauffement d'audience beaucoup plus à l'avance, okay, pour essayer de bâtir, okay, les plus grands bassins d'audience de la plus grande qualité possible. Donc, on a fait ça avec, oui, des listes VIP. On a fait ça avec des vidéo views, des campagnes vidéo views. On a fait ça avec des instant experiences qui ont été des ajouts là, cette année. Le vidéo views aussi, un ajout de cette année. Et également des campagnes décompte. Puis, on doit dire que l'ensemble de ces stratégies-là qu'on a amalgamées ensemble, hein, parce qu'avant, on était vraiment surtout sur la liste VIP, je crois que ça nous a donné vraiment un très bon momentum. Okay? C'est vraiment allé générer du trafic, okay, de qualité en amont du Black Friday, Cyber Monday, qu'on a été capable d'aller très bien recycler là, pendant l'événement.
Puis, dans ces campagnes de réchauffement d'audience, lesquelles ont porté leurs fruits, lesquelles ont moins bien porté leurs fruits?
C'est certain que les résultats doivent être nuancés, hein, parce qu'on sait avec les chiffres, on peut leur faire dire pas mal ce que l'on veut. Donc, pour la liste VIP, je pense qu'en général, ça s'est quand même bien passé. C'est certain qu'on est allé vraiment en détail sur l'analyse, puis on a quand même pu tirer plusieurs apprentissages. Okay? Un de ces apprentissages-là est vraiment qu'il faut vraiment avoir un objectif derrière nos listes VIP. Okay? Il faut pas se dire qu'on va simplement aller récolter des leads. Pourquoi? Parce que il y a différents types de leads, hein? Il y a différents objectifs sur une liste VIP. Est-ce qu'on veut générer de l'acquisition? Qu'est-ce qu'on veut générer des nouveaux clients avec cette liste-là? Est-ce que notre but, c'est d'aller réchauffer une clientèle existante en lui faisant savoir que notre offre arrive? Ça aussi, ça peut être un autre angle. Et est-ce que peut-être notre but, c'est d'aller acquérir des clients qui ne vont peut-être pas nécessairement convertir maintenant, mais qu'on va laisser nos cohortes grandir? Si on ne segmente pas comme il faut ces objectifs-là, ben, ça nous crée des listes très, très, très génériques qui ne vont peut-être pas nous donner les résultats escomptés. Okay, donc, on a pu voir peut-être des listes VIP sur certains comptes qui étaient majoritairement des clients existants, tandis qu'on voulait y aller dans une optique un petit peu plus d'acquisition. Donc ça va être vraiment des choses à l'avenir à vraiment, vraiment mieux segmenter. Mais en général, je crois que la liste VIP, c'est une stratégie qui demeure d'actualité. Et en général, on a été capable de rentabiliser les investissements publicitaires de nos clients.
Mais globalement, ce que tu dis, c'est que les campagnes de liste VIP ont davantage eu de succès avec des audiences qui connaissaient déjà la marque que des audiences totalement froides.
Oui, exactement. Mais la nuance ici, c'est que les gens qui sont déjà dans les listes peuvent être réchauffés de différentes façons. Fait que ça dépend de l'objectif. Pour réussir un Black Friday, on a absolument besoin d'un levier d'acquisition qui est fort. C'est ce qui va nous permettre d'avoir en cours d'année un beau pic de résultats, hein, une belle augmentation de la croissance. Donc, c'est peut-être sur des comptes là, qu'on n'a pas vu une croissance aussi grande. Bien, la liste VIP a peut-être pas été utilisé de la meilleure façon.
Mmh. Et si on regarde les autres campagnes de réchauffement d'audience, puis par la suite, je vais me tourner vers toi, Adeline. Donc, on a testé des campagnes de video views, on a testé des campagnes d'instant experience. Je me focus davantage ici sur Facebook. Ces résultats-là, t'en as pensé quoi? Lesquels ont peut-être donné des bons résultats? Lesquels en ont donné des moins bons?
Définitivement, la campagne de video views, très, très beau résultat qu'on a été en mesure d'aller créer avec ces campagnes-là. C'est des campagnes qui demandent pas nécessairement un très gros budget. Hein. Ils ont roulé sur nos comptes entre 20 et 100 $ par jour pendant une durée approximative de peut-être 30 jours en moyenne. Et les audiences qu'on a été capables d'aller créer avec ça sont énormes. On parle des audiences entre 50 et 150 000 personnes qui ont été quand même très faciles à recibler. On l'a testé avec des audiences spécifiques, donc en reciblant les video views, par exemple, de les gens qui ont regardé au moins 75 % d'une vidéo. Et ces audiences-là ont été en mesure de récolter là, de très, très beaux achats. C'est entre autres les campagnes qui nous ont permis d'aller chercher un second souffle. Tu sais, notre Black Friday, à un moment donné, quand nos VIP ont tous acheté, là, ben oui. On a besoin d'avoir d'autres choses pour se réalimenter. Mais ces campagnes-là, là, ont fait leur travail et définitivement, ce sont des campagnes qu'on va vouloir voir là, à l'année sur nos comptes.
Intéressant. Adeline, parle-nous un petit peu. Les bons, les apprentissages, les bons, les moins bons coups avec Google Ads. Qu'est-ce que tu en retires cette année? Qu'est-ce qu'on ferait peut-être pareil ou différent l'année prochaine?
Il y a énormément de choses qu'on a notées au niveau de ce Black Friday. Déjà, il faut aussi se remettre en condition, c'est que dans le cas de Google Ads, on ne change pas les structures que nous avons sur les comptes. Donc, un Black Friday, c'est quelque chose qui va se préparer. C'est vraiment quelque chose où peut-être en Q1, on va faire les analyses de Q4, en Q2, on va mettre en place, en Q3, on valide, mais on utilise les mêmes structures que nous avions déjà en place sur nos comptes. Ce qui va changer, c'est qu'on va gérer les mots-clés ou gérer les budgets, gérer les audiences d'une manière différente. Mais ça, c'est un premier enjeu, c'est qu'on ne déploie pas une structure particulière au Black Friday. Donc là, on a un premier enjeu, c'est que il faut pouvoir mettre à jour les annonces. Donc, le premier bon coup que nous avons observé, et je l'avais mentionné lors de notre événement ensemble la dernière fois, c'est les personnalisateurs de publicité. Ça nous a permis de sauver un temps fou parce que Black Friday, ça va vite. Il faut qu'on soit à même de réagir très rapidement. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on referait. Ça demande du temps d'organisation. Dans tous les cas, le maître mot de ce qu'on s'est rendu compte sur Google, c'est énormément d'organisation en amont pour que ça roule relativement de manière fluide pendant Black Friday. Ça, c'est un premier bon coup. L'autre chose qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que quand on a eu des comptes où on a fait un réchauffement au niveau du message. Alors, pas nécessairement un réchauffement d'audience parce que on ne va pas chercher des vidéo views comme on pourrait le faire sur Facebook, mais ne serait-ce que peut-être mi-octobre, début novembre, on change nos messages pour se mettre dans l'humeur Black Friday, pour mettre les utilisateurs, il y a des promotions en cours, il y a des promotions qui arrivent. Alors évidemment, on ne dit pas qu'il y a des promotions qui arrivent, sinon ils attendent. Mais un pré-Black Friday, on s'est rendu compte que ça avait très bien fonctionné versus des comptes où on a encore un message evergreen jusqu'au 23-24 et le 24 novembre, jour du Black Friday, là on met en ligne un message promotionnel. On se rend compte que quand la personne a été sensibilisée à un message promotionnel, même si les promotions ne sont pas encore 100% en ligne, ça a beaucoup plus fonctionné en termes de réactivité. On a eu des pics de ventes beaucoup plus importants dans ces comptes-là.
Donc, des comptes qui, pendant combien de semaines à peu près, t'as parlé du Black Friday? Est-ce qu'on parle littéralement du premier jour de novembre ou t'as commencé au milieu de novembre? Comment ça s'est mis en place?
Oui, ça a débuté fin octobre, début novembre au niveau du changement des messages, de sorte à ce que le message soit en adéquation avec le contexte de Black Friday. Et ensuite, on a vraiment changé une nouvelle fois nos messages dès que les promotions de Black Friday étaient en ligne sur le site internet. Mais nous n'avons pas conservé nos messages evergreen et c'est là où ça a fait la différence pour certains comptes.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Élite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne en offrant tous les services qu'un commerce électronique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour terminer l'année en force, rendez-vous au purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse, analyse, ou encore venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Il y a eu beaucoup de questions, je me rappelle, dans l'événement Hypercommerce et également j'en vois beaucoup en ligne. Est-ce qu'on va à 100% performance max? Est-ce qu'on utilise davantage une structure standard, traditionnelle qu'on pourrait appeler ainsi? Au final, si on regarde l'ensemble de nos comptes, Adeline, est-ce que beaucoup de nos comptes étaient en performance max ou pour la plupart d'entre eux, on était davantage sur une structure traditionnelle?
Une majorité encore en structure traditionnelle parce que tous nos comptes n'ont pas encore fait la transition complète au niveau du performance max. On avait quand même trois comptes qui étaient 100% en performance max. Ça s'est très bien passé. Cela dit, il ne faut pas penser que la performance max, c'est quelque chose qui est automatique où on a une seule campagne. Il y a quand même un gros travail à faire sur l'optimisation des flux de produits. Tous les créatifs doivent être vraiment très, très bien travaillés. La segmentation doit être très bien travaillée. Donc, en termes de travail, c'est la même quantité de travail. Après, la question est, quelles sont les analyses qu'on veut retirer de notre Black Friday? Si on veut faire une analyse haut niveau, tout canal confondu, on regarde les ventes à haut niveau. Le Performance Max est un très bon ajout. Nous, les trois comptes qui avaient les Performance Max ont vraiment très, très bien performé. Par contre, si on veut aller un peu plus en profondeur sur les produits, si on veut être un peu plus agressif sur le reciblage, on s'est rendu compte que les reciblages dynamiques et les reciblages où il y avait des comptes à rebours nous ont permis de dynamiser un petit peu les campagnes quand il y avait des périodes un petit peu plus creuses entre deux promotions ou entre un pré-Black Friday et un Black Friday en tant que tel. C'est sûr que là, on est assez limité avec ce genre d'initiative avec un performance max. Il y a encore beaucoup de choses qu'on doit apprendre sur les performance max. Pour l'instant, on va dire que le consensus, c'est soyez hybride. Ayez encore votre structure standard pour continuer à avoir du learning sur tout ce que vous entreprenez sur vos comptes et utiliser les performance max pour vraiment booster, dépenser plus, aller chercher une croissance. Donc, les deux travaillent vraiment l'un avec l'autre.
Intéressant. Bon, Stéphanie, on a parlé ensemble de réchauffement d'audience. Parlons un petit peu de cette semaine fatidique du Black Friday. Est-ce que les offres, là, est-ce que les clients qui ont eu le plus de résultats, c'est les clients qui ont lancé leurs offres du Black Friday en début novembre? Est-ce que le fameux Black November finalement a porté ses fruits? Ou au final, on se rend compte que non, les gens achètent la semaine du Black Friday. Nos promotions, on les lance soit le mercredi, le jeudi ou vendredi, mais pas tellement avant. Là.
Oui, on avait émis des hypothèses quelques mois avant que les annonceurs qui allaient lancer leurs offres à l'avance, bien à l'avance, allaient générer des meilleurs Black Friday ou des meilleurs retours sur investissement. Et je persiste à croire que c'est tout à fait vrai. Il y a quelques comptes à l'interne qui ont fait des Black November. Ça a été des mois incroyables pour ces clients-là, bien plus que si ces comptes-là avaient lancé quelques jours avant le Black Friday. Donc, le Black November, définitivement, ça va être encore d'actualité l'année prochaine. Donc, on peut déjà commencer à y penser. C'est certainement bénéfique. Puis, on a remarqué aussi, spécifiquement sur Facebook, que lancer des campagnes pour 72 heures, là, ça ne fonctionne pas. On ne va pas chercher le plein potentiel de nos campagnes. On n'est pas capable d'aller chercher du momentum. Donc, définitivement, d'allonger son Black Friday, de limiter le nombre de campagnes aussi qu'on va activer. T'sais, on ne va pas activer une campagne pour le Black Friday, une autre campagne pour le Cyber Monday. Encore là, on se dédouble. On va perdre du momentum, on va perdre des achats, on perd de l'exposition.
Et quand tu parles de Black November, Stéphanie, juste pour être certain, là, on parle de quoi? Une offre par semaine à partir de la première semaine de novembre? Une ouverture du Black Friday au mi à la mi-novembre? Concrètement, pour notre audience, là, comment qu'on les situe? Qu'est-ce qu'un Black November?
Mais c'est sûr qu'un Black November, habituellement, ça signifie de faire des offres tout au long du mois de novembre. Maintenant, dans le format, ça peut se faire de plusieurs façons. On peut faire une offre par semaine, par exemple, ça peut être sur des collections spécifiques de nos produits. Ça peut être sur des bundles spécifiques ou des éditions limitées qu'on va mettre de l'avant en s'assurant bien évidemment de savoir là, que ces offres-là vont performer. Ou encore, on a vu également des comptes qui ont tenu la même offre tout le mois de novembre et ça a fonctionné. il faut que cette offre-là se distingue très, très fortement, okay, de ce qu'on fait à l'année. Il faut que la valeur perçue de cette offre-là soit aussi considérablement plus importante que ce qu'on voit à l'habitude. Mais au niveau du format, le Black November, il peut varier. Okay? Puis c'est ce qui a permis à certains comptes qui génèrent environ peut-être entre 25 et 30 000 par mois d'aller générer du 150-200 000 $ par mois en vente. Là. Donc, c'est significatif.
Mmh. OK. Intéressant. Très intéressant même. Bon, Adélie, tu as parlé de décompte. Qu'en est-il, toi, de ton côté pour le lancement? Là, quand on parle vraiment de l'offre Black Friday, de l'offre Cyber Monday, de parler qu'on ne changeait pas notre structure, certes, mais quand on lance nos campagnes, tout ça, est-ce qu'il y a de quoi de spécifique qu'on peut retenir par rapport à tout ça?
Alors, c'est sûr qu'il faut que tout soit très distinct dans le compte. Certes, on travaille au sein de la même structure, mais on ne modifie pas des annonces Evergreen. On distingue vraiment tout, donc on labellise tout. On peut avoir des ad-groupes différents, on peut avoir des ensembles différents, on aura des annonces différentes parce que effectivement, il faut qu'on soit à même de pouvoir implémenter rapidement, automatiser une partie si on le veut. Et par exemple, pour les campagnes décompte, eh bien, on a deux options. Soit on fait un décompte à l'intérieur de campagnes textuelles, donc sur du search ads. Dans ce cas-ci, on est assez chanceux au niveau de Google Ads, ça se fait automatiquement. Donc, on a un petit script à ajouter au niveau de nos campagnes. On détermine à partir de quand le décompte commence, combien de jours il doit durer. Et Google va venir automatiquement changer dans notre annonce plus que 5 jours, plus que 3 jours, plus que 2 jours, etc. On peut aussi prendre cette approche-là en display. Et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'on a eu de meilleurs résultats sur nos campagnes compte à rebours en display que en search. Et là, il faut quand même être un petit peu malin dans notre manière de faire parce que on ne peut pas lancer une nouvelle annonce tous les jours. Le learning Google va être assez lent à ce niveau-là. Donc, on va peut-être plus avoir une annonce plus que quelques jours ou plus qu'une semaine. Donc, on garde, on va dire, une idée de compte à rebours, mais on va pas être précis sur il reste 2 jours, 3 jours, 4 jours. Un dernier learning qu'on a également fait à ce niveau-là, c'est que ça ne sert à rien de lancer les comptes à rebours trop tôt. Plus de 7 jours, on s'est rendu compte que c'était plus de gestion, plus d'implémentation pour les résultats qu'on a eus. Donc, on a vraiment eu des meilleurs résultats sur les 3, 2, 1, c'est le dernier jour.
Intéressant. Et Stéphanie, tu avais parlé un petit peu en début de rencontre, en début de podcast plutôt, le volet de compte à rebours. Et toi, de ton côté, en Facebook Ads, en Social Ads, ça a bien fonctionné tout ça?
Oui, ça a bien fonctionné dans l'optique où on le fait d'une façon très spécifique cette année sur certains comptes. C'est que sachant qu'une campagne doit avoir plusieurs jours, okay, de phase d'apprentissage à son actif pour gagner du momentum, et on est allé créer des publicités de comptes à rebours directement, okay, dans les campagnes Black Friday, Cyber Monday qu'on s'apprêtait à lancer. Donc ça nous a permis de réchauffer nos audiences et nous aussi, là, si, de la même façon que Google, on fait des comptes à rebours au maximum 72 heures là, avant la vente, donc 3 jours. On a fait ces comptes à rebours-là. Quand on est arrivé au grand jour, donc le Black Friday lancé, on ferme la dernière publicité compte à rebours et on lance immédiatement nos publicités avec nos offres. Et ce que ça permet, c'est que immédiatement notre campagne se met à performer en générant des achats. Donc ça, c'est super important. Ça a très bien fonctionné. Ce qu'on a fait aussi sur plusieurs comptes, c'est que sur des comptes où on ne voulait pas arrêter complètement le flot de vente, okay, en raison du Black Friday, sur des plus gros comptes, parce qu'on n'a pas fait de compte à rebours, mais on a simplement lancé nos campagnes du Black Friday Cyber Monday à l'avance avec des visuels Evergreen et on a fait la même tactique qu'avec les comptes à rebours. Puis ça aussi, ça nous a aidé à justement limiter là, les 2, 3, des fois même 4 jours là, où on a de la difficulté à aller générer des conversions.
Intéressant. Et bon, on va terminer avec les moins bons coups. Qu'est-ce qu'on refait pas l'année prochaine? Ou peut-être, ouais, non, allons-y comme ça. Qu'est-ce qu'on ne refait pas l'année prochaine, Adeline, en Google Ads pour notre Black Friday?
Ce serait de penser que trop d'offres, c'est mieux. Bizarrement parlant, en Google, la simplicité a le mieux fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste une ou deux promotions. On peut très bien y aller avec une promotion par semaine, mais changer ses messages trop fréquemment. Ça dilue un peu notre message et ça rend l'utilisateur un petit peu confus. D'autant plus qu'on s'est aussi rendu compte qu'à avoir trop de promotions ou si c'est moins bien organisé, eh bien, on va avoir beaucoup de conversions en début de Black Friday, puis moins à la fin. Donc, vraiment bien construire son calendrier de promotion, ne pas y aller avec des choses trop trop compliquées. Google aime ça, la simplicité. Puis peut-être l'autre chose également, c'est au niveau d'un learning, bien penser à son augmentation budgétaire. On a eu plusieurs cas où on avait des gros budgets pour Black Friday, mais qui n'étaient pas des budgets qui ressemblaient à ce qu'on gérait sur quelque chose à l'année. Si c'est votre cas, si vous avez des budgets qui sont peut-être x10 que ce que vous avez au niveau du mensuel, prenez absolument le mois de octobre pour faire une transition. Vraiment augmenter graduellement vos projets au niveau d'octobre pour arriver à un certain momentum en novembre. Sinon, si on augmente de plus de 30, 40, 50% les budgets sur Google, on retombe en phase de learning, on perd tout le momentum. Donc vraiment, préparez ça. Dernier petit conseil, c'est au niveau du shopping. Les promotions s'enchaînent énormément, surtout si vous avez sur un Shopify. Pensez à bien resynchroniser manuellement vos feeds de sorte à ce que vos promotions soient bien à jour sur le shopping. Google va venir scroller votre feed une fois par jour. Ça se peut que si les promotions changent entre-temps, ils ne soient pas exactement à jour quand elles sont en ligne. Donc, on pense à resynchroniser nos feeds.
Intéressant. Toi, Stéphanie, de ton côté, qu'est-ce qu'on ne refait pas l'année prochaine?
Et c'est certain que, pour faire un lien avec ce qu'Adeline a dit, je pense qu'on a 3 comptes à l'interne qui ont moins bien réussi leur Black Friday. Puis sur ces 3 comptes-là, l'offre est clairement en jeu. Donc, définitivement, au niveau de l'offre, il faut être certain, okay, que nos offres performent, quitte à les tester à un certain moment dans l'année. Là. Je pense peut-être à la fin de l'été, okay, faire une pratique de Black Friday, Cyber Monday, ça pourrait être une super belle idée. Puis pas nécessairement ce qu'on referait pas cette année parce que de manière générale, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce qu'on a fait qui ont bien fonctionné. C'est certain que les listes VIP, on va les améliorer. On va améliorer le concept en cours d'année. On va être prêt avec des nouvelles stratégies à ce niveau-là pour l'année prochaine. Et on va probablement essayer d'implanter sur plusieurs comptes une stratégie de réchauffement d'audience à l'année pour essayer de faire croître notre acquisition, pour essayer de faire croître notre trafic. Parce que c'est en ayant une croissance à l'année qu'on va aller générer les meilleurs résultats pour notre Q4. Puis ça se prépare dès janvier. Là.
Q4, ça se commence très, très, très tôt. Dernier mot, on prévoit quoi pour décembre, Adeline?
C'est sûr qu'on prévoit des calendriers de l'Avent. On prévoit des Boxing Day. Je vais réitérer mon point, on change ses messages. Donc, dès maintenant, on prépare l'utilisateur et le futur acheteur à se conditionner avec des messages pour Noël. Donc, vraiment, toujours contextualiser ces promotions pour avoir le plus d'impact possible.
Fantastique, Stéphanie.
Et nous aussi, sur Facebook, on fait des calendriers de l'Avent. C'est bon, ça. On fait aussi, évidemment, qu'on se prépare avec le Boxing Day, mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on ajuste nos stratégies en fonction des apprentissages qu'on a tirés pour chacun des comptes en prévision du Black Friday, en prévision du Boxing Day. Je pense que c'est l'élément sur lequel on va passer le plus de temps en décembre.
Fantastique. Mesdames, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Je vous félicite également pour votre excellent travail pendant ce BFCM parce qu'effectivement, on est très heureux des résultats qu'on a été capables de générer dans notre groupe, autant chez Pure Commerce que chez J7 Media. Donc, fantastique. On attaque maintenant décembre avec sérénité. Et également, c'est important d'attaquer décembre, mais c'est également le temps dès maintenant de planifier janvier parce que je vous le dis, en janvier, il y a des opportunités partout sur les plateformes médias. Les gros annonceurs sur Google, sur Facebook, souvent quittent les plateformes, ils prennent une pause. C'est là que nous, petites entreprises, on peut aller chercher des parts de marché pendant que les autres sont en train de faire autre chose. Donc, gardez ça en tête. Mesdemoiselles, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercialité.